Un homme regarde une femme. Lundi 28 juin 2021, hangar B, Maguire Air Force Base. Monsieur Vanier, redit Jamie Pudlowski à l'architecte qui se tient derrière la vitre sans teint de la salle de commandement. Derrière eux, sur la plateforme, s'alignent des dizaines de blocs, des demi-cubes d'acier et de verre teintés dotés d'une simple porte vitrée. À quelques mètres sous eux, la petite multitude du hangar, l'agitation, le bruit. Monsieur Vanier, vous comprenez la situation?
Pour autant que c'est possible, oui.
Vous a-t-on montré la vidéo avec les images caméra des deux avions? Le moment de la divergence? Le court film d'animation qu'a réalisé la NSA et qui présente les hypothèses? On vous a expliqué la présence d'un autre « vous » dans ce hangar, avec 242 autres doubles, pour être précis? Pour toute réponse, André Vanier pose ses mains sur la rambarde et considère la foule. Il imaginait se repérer aussitôt dans cette multitude, mais c'est en vain qu'il cherche sa propre silhouette. Il craint même de s'être vu sans s'être reconnu. « Suivez-moi, » dit Jamie Pudlowski. Et elle l'entraîne dans l'un des blocs sobrement équipés d'une table ovale, de quatre sièges, d'une caméra et, au mur, d'un écran. Les transparences des panneaux, les couleurs ocre et bordeaux des murs, ôtent tout côté carcéral à ce qui n'est pourtant qu'une vaste cellule. Tandis qu'il s'installe, elle manipule sa tablette, sans hâte. Je lis que votre cabinet d'architectes, Vanier et Edelman, avait candidaté pour le nouveau siège du FBI à Washington. Dommage, le projet a été abandonné faute de financement.
Nous avons bien fait une proposition, c'est vrai. Vous savez tout.
Hélas, non. Par exemple, nous ignorions que vous connaissiez le directeur du contre-espionnage français. Avec un tel ami, jamais vous n'auriez remporté le concours du siège. La France est une alliée, mais on n'est jamais trop prudent.
L'important, c'est de participer, soupire Vanier.
Méloy et moi avons fait la même grande école. Je me suis dirigé vers l'architecture et lui, vers la diplomatie. Pudlowski déplace son doigt. L'écran offre un plan général de la salle. Nous filmons dans l'illégalité, s'excuse l'officier, mais les circonstances sont exceptionnelles. Vanier regarde la caméra plantée au centre de la pièce, comprend qu'elle enregistre déjà tout. Pudlowski hoche la tête embarrassée, préfère poursuivre. Caméra haute définition, micro directionnel, la NSA en a placé pas mal. Le personnel d'équipage ou les passagers peuvent se lever, se déplacer, les caméras sont dédiées, elles les suivront automatiquement. Elle pianote encore un instant et aussitôt, l'image de l'autre André, le June, apparaît. Une manipulation encore, l'écran se divise en deux. Lucie est sur la seconde moitié. Vanier est saisi. Savoir une chose, ce n'est pas la vivre. Lucie et lui sont assis à une table. Ils parlent, désœuvrés. Un dernier geste de Pudlowski et on les entend. Leur dialogue s'affiche en anglais sur l'écran, traduit en simultané. « Café américain ?» demande André June en grimaçant. « What did the American ?» disent sottement les sous-titres. « Café » pour « café ». Le système n'est pas encore très au point, se rassure André March. « Je vous laisse un instant, monsieur Vanier », dit la femme du FBI en se levant et en le laissant seul face à l'écran. Envoûté, effaré, il regarde cet autre André. Ses rides, ses yeux gris comme un saphir laiteux, ses joues flétries où pointe une barbe blanche et ses cheveux épars. Chaque matin, André se rase face à son miroir, mais ils ont fini par s'apprivoiser l'un l'autre. Ici, la caméra est incorruptible. La haute définition sans bienveillance, la prise de vue sans courtoisie. C'est un vieil homme qu'il contemple. Un homme usé, sans charme, fatigué. Il cherche dans ce visage le sceau de la jeunesse immuable qu'il croit parfois incarner et il ne le voit pas. L'âge est partout, comme un carcan de boue. Il se trouve bouffi, aussi, empâté. Il devrait faire un régime. Décidément, vieillir, ce n'est pas seulement avoir adoré les Stones et se mettre à leur préférer les Beatles. Un ange est assis à côté de cet homme-là. La lumière lui rend hommage. C'est la Lucie de début mars encore, une Lucie aux cheveux toujours longs, au regard encore doux, une Lucie encore sienne qu'il n'a pas déjà fait fuir. Lorsque cet autre André prend la main de Lucie, il ne ressent aucune jalousie. La fascination emporte tout. Il regarde l'André qu'il fut se lever, se diriger vers les machines à café et instinctivement, parce qu'il le trouve voûté, lent, il redresse le buste, serre le poing jusqu'à avoir mal. Dans cette cabine connectée d'où la NSA l'observe, mais il s'en moque bien, André ne pense à rien qu'à Lucie et à cet autre lui, et surtout pas aux questions pratiques. Pas un instant il ne se préoccupe du cabinet Vanier et Edelman, qui ne peut tout de même pas devenir Vanier, Vanier et Edelman. Il ne songe pas non plus à sa fille Jeanne, qui a désormais deux pères, sans doute deux de trop, mais cela aura son avantage sans doute. Il ne se préoccupe pas de l'appartement parisien qu'il va falloir partager, ou de sa maison drômoise. Non, à rien de tout cela il ne pense encore. Il s'abîme dans ce désastre que lui offre à voir l'écran. Il aimerait pouvoir les quitter des yeux, mais c'est un tourbillon vertigineux. Dans cette petite pièce, un poids énorme écrase sa poitrine, l'air lui manque. Ce n'est pas un couple, loin de là. C'est un vieil homme, attentif et anxieux, qui tremble d'amour devant une jeune femme distante. Cet André-là est encore dans l'émerveillement des premiers moments. Il lit encore la réserve de Lucie comme de la prudence, sa tiédeur comme l'expression d'une certaine sagesse. Mais André March comprend qu'il n'a jamais cessé de craindre de l'effaroucher, de faire fuir cette hirondelle adorable qui acceptait de voler aux côtés d'un aussi vieux corbeau. Merde, l'amour, le vrai, ça ne peut pas être un nœud d'angoisse dans le cœur. Jamais il n'a été serein, et bien sûr cette anxiété contenait leur échec. L'André du hangar revient. Il porte deux cafés dans ses mains. Il sourit, et c'est un sourire de miséreux, mais Lucie ne lève pas les yeux de son livre. Devant l'écran, l'autre André reconnaît trop bien ce détachement, cette manière à elle d'être absente. Mais regarde-le, merde! Lâche ce fichu pléiade Gary, et effleure plutôt de tes beaux yeux ce grand type un peu antique. Offre-lui un peu d'attention tendre. Mais non. Rien. Il n'est pas donné à tout le monde d'assister de loin à sa propre ruine, d'avoir pitié de soi sans pour autant s'apitoyer sur soi-même. Une grimace douloureuse lui vient aux lèvres. Au fond, cet André d'hier, il le plaint. Il sait ce qu'il lui reste à subir d'humiliation et de frustration. L'âge n'y a jamais été pour rien. Il ne faut tout simplement pas aimer un être qui vous aime si peu. Pourquoi était-ce si compliqué ? Assis devant cet écran, André March s'éloigne de Lucie comme une feuille morte se détache d'un arbre, ou plutôt comme un arbre abandonnerait une feuille morte. 10 minutes cruelles d'observation minutieuse valent autant de mois de deuil douloureux. Sur la plateforme, André, qui se déteste de l'aimer encore, se réjouit déjà de l'aimer moins. Un mouvement de foule. Plusieurs agents civils se sont aventurés dans le hangar, et chacun s'empresse autour d'eux, les assaille de questions. L'un d'eux s'approche de Vanier, lui glisse un mot. Ce dernier le regarde sans comprendre, presse la main de Lucie qui lui sourit, puis il se résigne à suivre l'homme du bureau. De la salle vitrée, un André désabusé observe un André fatigué s'éloigner. Il aperçoit alors au bout de la table un homme mince, petit, brun, la quarantaine sans charme, qui annote d'une écriture serrée un petit carnet noir, un homme qui, de temps en temps, à l'échappée, observe Lucie. André March reconnaît aussitôt dans son regard cet égarement particulier qui n'a d'autre cause que le déséquilibre qu'entraîne l'attraction. Un papillon de plus s'est pris dans la toile que Lucie tisse en toute innocence. André le reconnaît soudain et reste stupéfait. Victor Mizel ? Mais ce type est censé être mort. Il était donc dans cet avion. Qu'a-t-il écrit déjà ? L'espoir, c'est le palier du bonheur, son accomplissement, c'est l'antichambre du malheur, ou un truc comme ça. Victor Mizel se retrouve donc sur ce palier à espérer capter l'attention de Lucie. Peut-être même la formule lui est-elle venue en songeant à Lucie. L'homme se lève, se dirige lui aussi vers le distributeur. Qu'ont-ils donc tous à tant aimer cette mixture atroce? Il s'éloigne sans que Lucie lève les yeux vers lui. André s'en veut d'en être soulagé. Mais cette colère révèle le fossé qui se creuse. Monsieur Vanier? André sursaute, se retourne. Jamie Pudlowski est adossée à la porte. Depuis combien de temps l'observe-t-elle? À son côté se tient un grand type, la cinquantaine voûtée, affligée de ce maintien maladroit de ceux qu'un corps trop grand encombre. L'homme s'approche, lui tend la main, d'un peu loin. Jacques Liévin du consulat, attaché commercial. La voix est blanche, le geste hésitant. André sourit tant l'homme suinte la peur. Liévin pourrait aussi bien faire une croix avec ses doigts ou porter un collier de gousse d'ail. L'architecte comprend qu'il vient tout juste de s'entretenir avec l'André de l'avion et que ce deuxième André n'est pour lui qu'une monstruosité. Quelle histoire, n'est-ce pas, monsieur l'attaché commercial? Plaisante André. À votre avis, suis-je l'original ou la copie? Un avion militaire français se pose dans quelques minutes à Maguire. La France envoie une vingtaine d'agents et monsieur Mélois, du contre-espionnage, vient en personne. Et ensuite, tous les Français doivent repartir avec lui. Il m'a demandé de vous saluer par avance. Vous voulez dire « nous saluer », moi et moi. Êtes-vous prêt, monsieur Vanier ? Interrompt Pudlowski, que le jeu n'amuse pas. Nous pouvons organiser la rencontre avec votre double. J'insiste pour que vous nous laissiez seuls, c'est une conversation privée, même si c'est entre moi et moi. L'autre m'a demandé la même chose. Mais vous êtes le premier Français à être confronté et le quai m'a donné l'ordre de rester avec vous deux à tout instant, regrette Liévin. Je dois remettre un rapport. Un rapport en rapport avec nos rapports, en quelque sorte, se moque Vanier. L'architecte désigne les caméras. La femme du FBI fait un simple geste et aussitôt les témoins lumineux verts s'éteignent. Au moins, les voyances sont éteintes, songe-t-il. Il surprend l'homme du consulat à fixer furtivement quelqu'un vers la gauche. Derrière la paroi vitrée se tient un autre André. Un André désorienté qui, d'un mouvement brusque, ouvre la porte et entre. Ils demeurent longtemps face à face sans échanger un mot. Les regards s'évitent aussi. C'est si troublant. Aucun André n'est l'André du miroir. Plus rien n'est familier. L'inversion des traits rend l'autre étranger, hostile. L'un va parler, mais un geste de l'autre retarde le moment. André March se tourne vers Liévin et Pudlowski, debout, embarrassé. Pudlowski hoche la tête. Liévin quitte la pièce avec un soulagement manifeste. La porte refermée, il s'observe. L'originalité vestimentaire n'a jamais été le fort d'André. Il porte le même jean, à peine plus usé chez l'un, le même sweatshirt gris à capuche, familier et rassurant des longs voyages en avion, les mêmes chaussures de marche noires et robustes. Ah, non, pas tout à fait les mêmes, note André June. Les deux André se taisent encore, mais ils ne peuvent s'en contenter longtemps. Un proverbe indien dit que ceux qui mendient en silence meurent de faim en silence. Nouvelles chaussures? Il y a 15 jours. Chez tous les deux, la surprise vient aussi de la voix. Un timbre moins grave que chaque André ne le pensait, moins doux aussi. Il s'est toujours entendu de l'intérieur. En conférence, en interview, il ralentit son débit, veille à articuler, se place dans les basses. Il découvre sa vraie voix. Jeanne? Demande André June après un nouveau temps. Elle va bien, elle n'est pas encore au courant, évidemment. Lucie? Lucie et moi? On s'est quittés. Puis André March se reprend. On peut toujours se mentir à soi-même, mais à quoi bon mentir à soi? Il reprend. Elle m'a quitté. Trop peu de désir de son côté et du mien. Trop de frustration. Trop d'attente aussi, sans doute. Trop d'impatience. Tu le pressentais, non ?
Un homme averti en vaut deux.
Un instant seulement, une idée vient à André March, celle de tenter de reconquérir cette Lucie d'hier, cette Lucie de mars qui ne l'a pas encore repoussée. Mais il grimace, et c'est déjà un sourire. Il a su plaire à cette femme alors qu'il était moins jeune, moins beau que tous ceux qui la poursuivaient, et n'aura jamais su quels étaient ses atouts. Rivaliser avec lui-même serait une nouveauté. Et puis, un André, c'est 30 ans de différence d'âge. Deux André, c'est un EHPAD. Elle ne peut que fuir, c'est si évident. À André June, il ferait mieux de souhaiter bonne chance. Il ajoute, « Je n'ai qu'un conseil. Sois doux, attentif, mais en même temps, joue un peu l'indifférence. Et n'aie pas trop envie d'elle. Tu l'as déjà compris, mais pas encore accepté. »
Je m'en souviens.
On a si rarement l'occasion de se coacher. André June se voudrait léger, mais une boule se noue dans le ventre. Dans une heure, il retrouvera Lucie. Comment lui avouer que leur destin est peut-être déjà scellé? Ou comment lui cacher?
Et le cabinet, dit André June, que le sujet met mal à l'aise. Un problème de béton à la Suriaya Tower, c'est réglé. Et puis il y a quelques mois, rappelle-toi, je pensais prendre un mi-temps, voire ma retraite. J'en ai un peu marre, tu le sais bien.
André March fait un signe à l'attaché commercial derrière la vitre qui faisait mine de fixer le sol métallique, mais voit aussitôt le geste et entre.
Cher monsieur, vous m'avez bien dit que la France peut offrir une seconde identité.
Oui, une nouvelle identité, pour lequel ?
Pour moi,
poursuit André March avant de s'adresser à June. C'est toi qui vas retourner au cabinet, c'est mieux. J'y ai passé ma vie les 3 mois où nous avons été ensemble. Passer mon temps à l'attendre m'aurait rendu fou, parce que tu vas vite le comprendre. Lucie travaille beaucoup. Il te faut de l'occupation. Je te mettrai au courant des dernières avancées sur les chantiers. Moi, j'irai dans la Drôme. J'y suis bien. Au fait...
March fronce les sourcils, se tourne vers l'attaché commercial.
Soyons pratiques. Comment le gouvernement répond-il aux questions matérielles? Il y a environ 70 Français concernés, m'a-t-on dit. Ils ne vont pas partager leur appartement, perdre la moitié de leur épargne. On pourrait sans doute considérer qu'il y a eu une catastrophe naturelle.
Faire jouer les assurances.
Le concept de catastrophe virtuelle pourrait entrer dans les textes. Et si je décidais de prendre ma retraite, que se passe-t-il? Est-ce que je prendrais celle de mon double? Au vu de la générosité des systèmes de retraite complémentaires, je doute qu'ils dupliquent les cotisations que j'ai versées, à moins d'une injonction gouvernementale.
L'homme du consulat semble dépassé. Il regarde son portable, planche de salut.
Justement, on me signale que M. Mélois arrive dans la minute.
C'est le genre de problème qu'il va adorer, rit André June.
Au fait, l'autre baraque, le vieux relais de poste de Montjou avec laquelle j'hésitais, elle est toujours à vendre, dit André March.
Je vais l'acheter, qu'on fasse ou non passer cette idée de catastrophe virtuelle. Nous aurons nos deux maisons à 10 kilomètres l'un de l'autre. Les amis qui venaient en vacances se partageront entre nous deux.
On verra qui est le plus sympa.